Bonsoir. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue au Centre d'archives de Montréal. Je me présente Christine Bouchard, directrice de la programmation culturelle. Alors, la table ronde de ce soir, intitulée « Le rôle des Sulpiciens dans l'histoire du livre au Québec », a été programmée en complément de l'exposition « La bibliothèque de ces messieurs », présentée ici même au Centre d'archives jusqu'au 21 octobre prochain. Rappelons que les collections et les biens de la Bibliothèque Saint-Sulpice constitue le premier fonds documentaire de la Bibliothèque nationale du Québec, fondé en 1967. Nos invités, messieurs Michel Brisebois, Marcel Lajeunesse et Jean-René Lassonde, aborderont les divers aspects de la contribution des Sulpiciens à l'histoire du livre du Québec. Cette table ronde est animée par M. Éric Bouchard, agent de recherche à la Direction de la recherche et de l'édition de BANQ. Je lui laisse le soin de vous présenter les conférenciers et le déroulement de la soirée. Je remercie tous ceux qui ont collaboré à la présentation de cet événement et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.
Alors, distingués invités, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de pouvoir animer cette table ronde consacrée au rôle des Sulpiciens dans l'histoire du livre au Québec. Je vous dévoile, sans plus attendre, le programme de la soirée. Avant de vous présenter nos spécialistes, je me permettrai, en guise d'introduction, de vous dire quelques mots sur les Sulpiciens. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Enfin, je reconnais M. Lévesque, M. Doris, M. Lucier, donc merci d'être avec nous. Quelques amis, la secrétaire générale d'André Grasset, donc Mme Melançon. Mais, car comme on l'indique dans le titre de la magistrale synthèse qui lui est consacrée, paru chez Fidèle cette année, l'histoire de Saint-Sulpice en est d'abord une de discrétion. Donc, et c'est pourquoi, sans doute, les Sulpiciens, acteurs majeurs de l'histoire montréalaise, restent assez peu connus du grand public. Nos participants nous livreront ensuite leur exposé à tour de rôle. Chacun s'étant réservé une époque particulière. Un échange suivra et la soirée se terminera par une période de questions. Donc, qui sont donc les Sulpiciens? C'est d'abord une compagnie de prêtres fondée à Paris par Jean-Jacques Ollier en 1641, dans la foulée d'une contre-réforme catholique inspirée par le Concile de Trente et peut-être plus particulièrement par l'école de spiritualité française, ou l'école française de spiritualité. En France, les guerres de religion qui ont déchiré le pays ont entraîné une déchristianisation profonde de bien des populations. Pour la combattre, Jean-Jacques Ollier, bien que lui-même plus porté vers un élan missionnaire, croira devoir d'abord se consacrer à la formation des prêtres et à la fondation de séminaires. C'est ce que Saint-Sulpice sera en France, une institution formatrice de prêtres, d'hommes à même de pouvoir diriger des séminaires diocésains. L'élan missionnaire de Jean-Jacques Ollier s'incarnera pourtant, en Nouvelle-France, à Ville-Marie surtout, pour cette folle entreprise, au dire de certains, qu'il soutient personnellement au sein de la Société de Notre-Dame. Quelque temps avant sa mort, il aura la joie de voir désigner quatre confrères qui constitueront, il y a 350 ans cette année, donc la première communauté sulpicienne au Nouveau Monde. En 1657, donc, les Sulpiciens viennent avec la ferme intention de convertir et d'évangéliser. C'est ce qu'ils feront. Très vite, pourtant, le séminaire de Paris devra, pour la survie même de la colonie montréalaise, acquérir la seigneurie et en diriger le développement. Cela signifie que ce sont les Sulpiciens qui régiront une bonne partie de la vie économique et sociale de Montréal. Ils bâtissent les moulins, ils planifient l'ordonnance du défrichement. Les premiers chemins, les côtes, les montées, qui sillonnent toujours l'île, parfois sous d'autres noms, ont été pensés par eux. La trame du Vieux-Montréal est pour beaucoup le fait de Dollier de Casson, celui-là même qui a entrepris de creuser le canal Lachine dès le XVIIe siècle. Plus largement, l'emplacement des premiers villages au pourtour de l'île, Pointe-aux-Trembles, Sainte-Anne, Lachine, Pointe-Claire et autres, furent déterminés par les Sulpiciens qui y implantèrent d'abord leur mission paroissiale. À l'intérieur même des limites de la paroisse de Notre-Dame, les premiers détachements qui surviendront au XIXe siècle, Saint-Henri, Hochelaga, l'Enfant-Jésus, Notre-Dame-de-Grâce, auront eu pour origine les différentes dessertes établies par Saint-Sulpice. Car les Sulpiciens se devaient d'assurer les besoins pastoraux de Montréal et d'abord les besoins du culte. À cette fin, le séminaire bâtira les premières églises, les premières chapelles, ornées des plus belles pièces d'art qu'on pouvait s'offrir, habitées par la plus belle musique sacrée qu'on pouvait produire. Plus tard, ce seront des bâtiments qui font toujours l'orgueil de Montréal qui seront construits. Notre-Dame, bien sûr, qu'on confond souvent avec la cathédrale, mais aussi Saint-Patrick, offerte aux Irlandais, la chapelle du Grand Séminaire, d'autres moins connus ou disparus, comme Bon Secours, Saint-Joseph ou Sainte-Anne. Mais avoir charge d'âme, c'est plus que de la pierre et c'est plus que la pierre et le culte. C'est aussi soulager la condition des plus pauvres et des plus faibles. Dès 1659, les Sulpiciens soutiendront les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Plusieurs fois, l'Hôtel-Dieu éprouvé par le feu sera relevé par les Sulpiciens. De même, ils parraineront les filles de Sainte-Marguerite-Diouville jusqu'à ce qu'elles soient reconnues par Louis XV lui-même. Cette étroite collaboration n'a évidemment pas cessé. À l'origine d'œuvres plus particulières, des Sœurs Grises, telles que l'Accueil Bonneau ou l'Institut Nazareth, les Sulpiciens sont toujours bien présents. Reste que le domaine de prédilection, plus précisément le domaine qui distingue les Sulpiciens de Montréal, est l'éducation. J'ai déjà mentionné la primauté accordée en France à la formation des prêtres. Mais au Canada français, avant de former les prêtres, il fallait instruire la jeunesse. C'est ainsi que Saint-Sulpice appuiera la congrégation de Notre-Dame dans l'éducation des jeunes filles, eux-mêmes se réservant l'instruction des garçons. Dès qu'ils ne pourront plus suffire à la tâche, ils feront venir les frères des écoles chrétiennes qu'ils logeront en partie jusque dans les années 30 dans un vaste ensemble aujourd'hui disparu, près du complexe Guy Favreau. Pour l'enseignement secondaire, leur institution phare sera le Collège de Montréal, qui fête cette année son 240e anniversaire. Né peu après la conquête, le Collège sera établi plus formellement après l'arrivée au pays des Sulpiciens chassés par la Révolution française. Ces derniers influenceront profondément l'enseignement donné dans les collèges classiques qui se fondent au début du 19e siècle. Nicolet, Saint-Hyacinthe, Sainte-Thérèse, l'Assomption. Au 20e siècle seront fondés des externats classiques, André Grasset le premier. L'enseignement supérieur et universitaire n'est pas en reste, car dès la fin du 18e siècle, un projet d'université est proposé aux autorités qui le repoussent. En 1840, le Grand Séminaire est créé, et c'est en son sein qu'on organisera la faculté de théologie, l'une des trois qui constitua la succursale de l'Université Laval à Montréal, qui deviendra par la suite l'Université de Montréal. Saint-Sulpice, en la personne de Louis Collin, sera même à l'origine de la création de la faculté des arts. Il financera la première chaire de littérature française. Que dire encore? Lorsque l'université décidera de s'établir rue Saint-Denis vers 1897, ce sont les Sulpiciens qui offriront le terrain. Après l'incendie de 1919, ils sont parmi les premiers à souscrire à la reconstruction pour une somme substantielle. Finalement, c'est sous le rectorat de Mgr Olivier Moreau que l'université réalisera son difficile déménagement sur la montagne. Voilà, nous pourrions en dire davantage, mais je crois que c'est bien suffisant pour comprendre que Saint-Sulpice est indissociable de l'histoire de Montréal. Pour comprendre aussi que la Compagnie des prêtres, un groupe d'hommes souvent hors du commun qui avaient des rêves ambitieux et qui eurent les moyens et la volonté de les réaliser, donc étaient des gens qui avaient un idéal de culture, pour qui l'instruction était importante. Mais pour ce faire, pour réaliser leurs rêves, pour nourrir cet idéal de culture, il leur fallut des livres. On n'est pas administrateur, prédicateur, éducateur, urbaniste, musicien, sans un rapport constant, quotidien, privilégié avec l'imprimé. Cette étroite relation, cette importance accordée aux livres qu'on constate dès les débuts, il y a 350 ans même, le rôle unique qu'ont joué les Sulpiciens dans le monde du livre s'explique ainsi. C'est ce rôle-là que nous voulons approfondir ce soir en compagnie de trois spécialistes que je vous présente sans plus tarder. Tout d'abord, nous entendrons M. Michel Brisebois, qui est tout au bout. Après une longue carrière en librairie ancienne, Michel Brisebois a été pendant 10 ans conservateur des livres rares à Bibliothèque et Archives Canada, où il agit également en tant que commissaire pour de nombreuses expositions. Il est actuellement spécialiste de livres anciens à BANQ. Il a publié « Impression, 250 ans d'imprimerie dans la vie des Canadiens » et « L'imprimerie au Québec au 18e siècle, les feuilles volantes et affiches 1664-1800 ». Il fut aussi responsable de la bibliographie matérielle des œuvres complètes de Crébillon fils sous la direction de Jean Sgarre. Il est co-commissaire avec Mme Julie Roy de la belle exposition donc, qui est associée à cet événement, donc la bibliothèque de ces messieurs, le livre chez les Sulpiciens en Nouvelle-France qu'on peut visiter ici même depuis le 20 mars dernier. Ensuite, nous laisserons la parole à M. Marcel Lajeunesse, au milieu, historien et professeur associé à l'EPSI, qui nous parlera donc des Sulpiciens et le livre au 19e siècle. Marcel Lajeunesse enseigna à 2006 à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Il fut directeur de son département de 1987 à 1994 et vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal de 1994 à 2002. Spécialiste de l'histoire du livre et des bibliothèques, il a notamment publié « Les Sulpiciens et la vie culturelle à Montréal au 19e siècle » et « Lecture publique et culture au Québec, 19e et 20e siècle ». Enfin, nous clôturons les communications avec celle de M. Jean-René Lassonde, tout près de moi, bibliothécaire de référence à la Collection nationale de BANQ, grand spécialiste de l'histoire de la Bibliothèque Saint-Sulpice. Bibliothécaire à la Collection nationale, Jean-René Lassonde oriente et assiste les chercheurs québécois depuis 1971. Il a publié « La Bibliothèque Saint-Sulpice, 1910-1931 » et plusieurs articles, notamment dans la revue « Documentation et bibliothèque ». Membre du groupe de travail à BANQ sur la reconnaissance et la mise en valeur de la collection Saint-Sulpice, il est également chargé de recherche au projet d'inventaire bibliographique sur les relations franco-québécoises depuis 1760, projet mené conjointement par les Bibliothèques nationales du Québec et de la France. Donc, M. Brisebois, à vous la parole.
Merci, Éric. Bonsoir. Moi, je vais vous parler à bâton rompu, comme je fais toujours quand je fais une communication. Comme j'écris jamais de texte, je vais vous parler de l'apport des Sulpiciens au livre à Montréal pendant l'époque de la Nouvelle-France, surtout. Et je vais essayer peut-être de prolonger jusqu'à 1800, parce que mon collègue, M. Lajeunesse, va commencer autour de la Révolution française. J'avais une phrase punch que j'avais pensée cet après-midi, et c'est celle-ci. 13 pages. 13 pages sur 434, c'est la place qu'a le livre en Nouvelle-France dans le tome 1 de l'histoire du livre et de l'imprimé, au Canada, des origines jusqu'à 1840. Alors, ça fait un chapitre de 13 pages qui contient surtout le texte de notre ami François Melançon et une page et demie de notre autre ami Gilles Galichan sur la bibliothèque du Collège des Jésuites. Alors, c'est pas une critique du livre, l'histoire du livre et de l'imprimé du tout. C'est un livre que j'aime bien. C'est seulement pour vous montrer un peu le peu d'importance qu'on a donné et qu'on continue à donner, disons qu'on a donné à l'histoire du livre pendant l'époque de la Nouvelle-France. Dans ce même histoire du livre et de l'imprimé, quand vous regardez la chronologie, ça commence à 1751. Donc, avant 1751, avant l'avènement de l'imprimerie au Canada, il n'y a rien. Alors, on va essayer de vous parler de ce qui se passait dans le livre en Nouvelle-France. Je ne vais pas répéter les textes qu'on a écrits pour l'exposition et pour le catalogue, parce que, bon, vous avez peut-être eu la chance de le regarder. Mais on va essayer de parler des questions qu'on n'a pas soulevées pendant l'exposition. On parle beaucoup d'histoire de la Nouvelle-France quand vous prenez des cours. En tout cas, moi, je me souviens des cours d'histoire que je prenais quand j'étais tout petit. C'était toujours l'histoire de la Nouvelle-France. On n'avait pas autre chose que l'histoire de la Nouvelle-France. C'est un peu comme quand vous prenez des cours de religion à cette époque-là, c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, on ne touchait jamais. Alors, moi, je connais qu'un peu de l'histoire de la Nouvelle-France parce que c'était nos cours d'histoire. Quand vous parlez d'histoire du livre, on y touche à peu près pas, comme on a vu tout à l'heure. Alors, je pense que c'est ce qui nous a frappé, Julie Roy et moi, quand on a commencé à regarder la collection des livres anciens de BANQ, et on est tombé sur la collection des Sulpiciens. La plupart des histoires du livre, des histoires de bibliothèques qui touche à la Nouvelle-France. Les gens ont travaillé comme Gidius Fauteux, des gens comme Antonio Drolet, ces gens-là ont travaillé beaucoup avec des testaments, des actes de décès, etc. C'est des historiens qui sont habitués à travailler avec ce genre de documents. J'ai jamais tellement compris pourquoi les gens n'ont jamais regardé les livres. Parce que pour moi, c'était évident que les livres, ils parlent. Et puis, c'est la première chose qui nous a frappé quand on a commencé à regarder les fameux livres de BANQ, c'est que c'était rempli de signatures dans ces livres-là, de possesseurs. Alors, ça nous a frappé, on a dit, pourquoi pas, on fait un petit inventaire qui est devenu un gros inventaire de, on a regardé 5-6 000 livres, pour noter les possesseurs. Alors, c'est comme ça qu'on a pensé à faire une petite exposition pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait trouvé. Le problème, et puis je vais essayer d'avoir assez de temps parce que pour y revenir, on va peut-être y revenir après en discussion. Le problème avec ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé une toute petite portion de la bibliothèque des Sulpiciens. La bibliothèque des Sulpiciens, elle est au séminaire de Saint-Sulpice. En grande partie. Nous, on a une petite partie et Jean-René va vous expliquer comment la petite partie est venue chez nous. Alors, quand on fait une étude comme ça, qui est basée sur 5000 livres, quand on sait qu'il en existe 25 000 ou 30 000, c'est intéressant, mais ça empêche la publication. Franchement, on n'avait pas tellement le goût de publier quelque chose parce que les données sont faussées. Mais ce que ça nous a apporté, c'était certains renseignements sur la bibliothèque des Sulpiciens, sur les autres possesseurs de livres en Nouvelle-France. Le contexte. Quand les Sulpiciens sont arrivés, parlons du 17e siècle, la deuxième moitié du 17e siècle, il n'y a pas beaucoup de livres à Montréal. Puis là, je vais parler de Montréal. On ne commencera pas à parler de Québec parce que c'est un autre système à Québec et Québec était quand même loin de Montréal. Il y a quelques livres chez les hospitalières, il y en a probablement à la Congrégation Notre-Dame, il y a des missionnaires jésuites sur l'île de Montréal qui ont probablement quelques livres également. Il n'y a pas beaucoup de livres, mais il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Hein. Je ne sais pas exactement combien de gens il y avait en 1680 à Montréal, puis tu as peut-être 400, 500, là. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Les premiers Sulpiciens qu'on a identifiés comme des possesseurs de livres, ce sont deux Sulpiciens qui sont arrivés en 1665, donc tout de suite après les tout premiers Sulpiciens. C'est Michel Barthélémy, qui était beaucoup un missionnaire, et Gilles Perrault, P-E-E-R-O-T, pas Perrault, mais Perrault. Donc, en 1665, ces deux Sulpiciens-là arrivent et ils ont déjà des livres. Ils apportent des livres avec eux. Michel Barthélémy, on a un exemplaire qui lui a appartenu avec la date de 1664, ce qui est intéressant parce que ça nous dit qu'il l'a apporté avec lui. Donc, en gros, la part des livres, la part des Sulpiciens aux livres en Nouvelle-France, c'est simple. C'est vraiment très simple quand on regarde ce qui s'est passé en gros. C'est-à-dire, c'est pas comme au 19e siècle ou au 20e siècle là, où il y a beaucoup, beaucoup d'activités, de différents groupes, il y a l'œuvre des bons livres, etc. En Nouvelle-France, ça a l'air vraiment super simple. Les Sulpiciens viennent de France, ils arrivent ici, ils apportent des livres dans leur bagage. Donc, premier livre qui arrive. Ensuite, une fois qu'ils sont établis, ils continuent à commander des livres par des amis, par des contacts, par des libraires, etc. En France, donc, il y a des livres qui continuent à rentrer en Nouvelle-France. Quand le séminaire est fondé à la fin du 17e, il y a une bibliothèque qui commence là aussi. Donc, il y a les gens qui s'occupent du séminaire qui doivent aussi commander des livres. Donc là, vous avez deux pôles. Vous avez les Sulpiciens qui ont le droit de garder leurs livres, ont le droit d'acheter leurs livres. Ils n'ont pas fait vœu de pauvreté. Donc, ils se constituent des bibliothèques personnelles. Et il y a une bibliothèque du séminaire qui se constitue en même temps. Où ça se complique un petit peu, c'est quand les Sulpiciens vont laisser par testament ou vont donner tout simplement leurs livres éventuellement au séminaire. Pardon. Alors ça, c'est vraiment le schéma de base qui est, comme vous voyez, extrêmement simple. Quand on regarde les livres, on voit que c'est pas si simple que ça. Et je voudrais ce soir vous parler un petit peu de l'autre aspect qui est le mouvement des livres pendant la Nouvelle-France, à l'époque de la Nouvelle-France. Les Sulpiciens, c'était non seulement des importateurs de livres, des connaisseurs de livres, c'était des animateurs également. Et la bibliothèque du séminaire, entre autres, a été comme un aimant pour les autres livres qui étaient présents déjà en Nouvelle-France. Les bibliothécaires qui sont dans la salle savent que si vous voulez attirer des livres à votre bibliothèque, il faut déjà avoir des livres. Plus vous avez de livres, plus vous en attirez. C'est un peu comme l'argent attire l'argent. Et quand vous voulez avoir des dons, si vous êtes une toute petite bibliothèque, vous avez beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors, les Sulpiciens avaient la grosse bibliothèque, même à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, ils pouvaient attirer des petites bibliothèques autour qui avaient de la difficulté, il y avait des congrégations qui avaient des problèmes, qui avaient des incendies, etc. Bien, les livres, petit à petit, se retrouvaient au séminaire. Je vais vous donner, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer avec ça, je vais vous donner des exemples très précis qu'on a trouvés dans les exemplaires qu'on a examinés, et puis on a noté des signatures, etc. Parce que dans l'exemplaire que vous regardez, c'est sûr que des fois, vous avez un livre, une signature, un propriétaire, ça va. Mais souvent, vous en avez plusieurs des signatures. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on commence à faire, à dire, bon, ben un tel, il va donner son livre à un autre, puis l'autre, il a donné ça au séminaire, etc. Alors, je vais vous donner des exemples. Tu pourras me dire, hein, quand je suis rendu à mon dernier 5 minutes. Entre les Sulpiciens, ils s'échangeaient des livres également. Par exemple, il y a Simon Saladin qui a hérité des livres d'un confrère, Citoy de Chaumont, à son décès en 1727. Les deux avaient été curés de Rivière-des-Prairies. Donc là, il y a peut-être une connexion entre les deux. Parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on voit. Mais l'interprétation, elle n'a pas été faite encore. Donc il y a un paquet de points d'interrogation dans tout ça. Le même Saladin achète, et je souligne, achète un livre de son confrère, Pierre Rémy, en 1725. Alors même entre Sulpiciens, il n'y a pas question toujours de faire des dons. On achète et on vend. Ce Saladin était d'ailleurs un bibliophile assez mordu. On le voit acheter des livres un peu partout, échanger des livres avec des chirurgiens, toutes sortes de personnes. Alors, c'était un bibliophile assez passionné. Le livre, il y a un livre de François Seguenot, confesseur de Jean Lebert, qui a la mention « À présent à Bouffandeau ». De Bouffandeau, qui est un autre Sulpicien. Donc, il raye la mention du nom de son confrère pour mettre « Maintenant, c'est à moi ». Donc, on voit également cette force que la possession du livre donnait. Parce que quand vous regardez les exemplaires, le possesseur précédent, et ça nous donne des difficultés, la plupart du temps, a été rayé avec beaucoup de force. Et puis ça, c'est difficile pour nous parce que on a de la difficulté à identifier les possesseurs. Alors, on voit là que c'est une possession et puis qu'on dit, bon, lui, c'est plus à lui, c'est à moi maintenant. Les Sulpiciens donnaient également quelquefois à la communauté au séminaire. Antoine Déa, par exemple, semble avoir laissé tous ses livres au séminaire parce qu'on a les deux provenances. Vachon de Belmont aussi, peut-être le plus grand des collectionneurs, des bibliophiles, peut-être un des plus grands Sulpiciens, a donné également ses livres au séminaire. Quelquefois, c'est un livre qu'on donne à quelqu'un d'autre. Joseph de la Colombière, en 1723, a laissé par testament un livre à l'hôpital général de Ville-Marie. Alors, pourquoi, on ne sait pas. Il a laissé un de ses livres. Les autres sont peut-être allés au séminaire. Alors, ça se complique, vous voyez, quand on essaie de voir un peu les bibliothèques, comment ça fonctionne, vous avez une partie qui va à un endroit, une partie qui va à un autre endroit, une partie qui s'en va au séminaire parce qu'on est Sulpicien, on devrait laisser nos livres au Sulpicien, mais d'un autre côté, de temps en temps, il y en a un ou deux qui s'échappent et qui vont chez quelqu'un d'autre. Il y a les communautés qui ont laissé beaucoup de livres au Sulpicien. Les hospitalières, par exemple, les hospitalières de Saint-Joseph, qui ont des livres entre 1696 et 1699. Ils vont toujours marquer la date. Ils donnent des livres aux Sulpiciens vers 1703-1704. On ne sait pas pourquoi, pendant ces années-là. Ils ont eu des incendies vers la fin du 17e. Peut-être qu'ils trouve que les livres vont être mieux logés chez les Sulpiciens. Et certains de ces livres-là provenaient de Monseigneur de Saint-Vallier, qui avait donné ça aux hospitaliers. Donc, on peut voir la trace. Des fois, ça se complique encore plus. Je vais vous donner un exemple. Les frères hospitaliers, François Charon et les frères hospitaliers, qui étaient très près des Sulpiciens, ont des livres. Il y a des signatures séminaire de Montréal ou séminaire de Ville-Marie, donc on sait que c'est éventuellement chez les Sulpiciens. Mais entre les deux, on a la signature de Cugnet. Cugnet, c'était trois générations de fonctionnaires, les Cugnets, qui étaient des gros bibliophiles et dont les collections étaient vendues à la fin du 18e. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les frères hospitaliers, achetés par Cugnet au 18e, et ensuite, ça s'en va chez les Sulpiciens. Alors, comment ça s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a eu des ventes? Est-ce qu'il y a eu des dons? On ne sait pas. Mais ça nous donne un indice qu'il y a eu une trace. Ici, par exemple, il y a une note dans un livre par l'abbé Valois, qui est un prêtre séculier en 1727, acheté à l'hôpital général le 20 janvier 1733, et Valois retourne ensuite en France l'année suivante, et le livre reste chez les Sulpiciens. Comment est-ce qu'il est rendu chez les Sulpiciens, on ne sait pas, mais on le retrouve dans leur bibliothèque. Donc, vous voyez un petit peu le genre de complexité. Je vais terminer avec des fameux livres du bibliothèque du Collège des Jésuites de Québec, où il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur cette bibliothèque-là. On trouve nécessairement de ces livres dans la bibliothèque des Sulpiciens. On trouve de ces livres dans toutes les grosses bibliothèques. Ils ont été dispersés un peu partout. Mais ils sont rentrés chez les Sulpiciens seulement qu'au 19e siècle, au tout début du 19e siècle. La bibliothèque des Jésuites avait été démantelée, une partie au moins démantelée à la fin du 18e, et ça avait été vendu par le libraire Nielsen à Québec. Et il y a des collectionneurs qui ont acheté des livres de Nielsen, qui les ont gardés jusque vers les 1800, peut-être 40, 50, et ensuite, c'était acheté par les Sulpiciens. Donc, le livre qui était rentré en Nouvelle-France, à Québec, chez les Jésuites, se retrouve quand même éventuellement chez les Sulpiciens. Donc, vous voyez un petit peu le système, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu l'aimant, c'est un peu l'entonnoir, la bibliothèque des Sulpiciens. Bon, là, j'ai trop parlé, alors je vais finir. J'avais écrit trop de fiches. Il y a beaucoup d'énigmes dans ces bibliothèques-là également. Je vais juste parler de l'intendant, la bibliothèque de l'intendant Dupuis et la bibliothèque de l'intendant Hocquart. La bibliothèque de Dupuis, c'est censé être en France, à Rochefort, dans des caisses, etc. Mais on en trouve plusieurs dans la bibliothèque des Sulpiciens, avec des provenances intermédiaires, laïques, avec des provenances de prêtres séculiers. Qu'est-ce qui est arrivé à la bibliothèque de Dupuis? On ne sait pas. Je pense qu'il faut absolument, éventuellement, que cette bibliothèque des Sulpiciens soit inventoriée au niveau du catalogue, mais également au niveau des provenances, parce que ça va l'analyse de cette bibliothèque-là va nous faire avancer beaucoup dans l'histoire du livre en Nouvelle-France, l'histoire du mouvement des livres en Nouvelle-France. Quand je parlais avec M. Lajeunesse, il me disait que François Melançon venait de terminer sa thèse de doctorat. Et lui, sa thèse, c'est que sur le livre en Nouvelle-France. Alors, c'est déjà bien parti. J'espère qu'au niveau des provenances, on va pouvoir continuer à examiner d'autres livres des bibliothèques et des Sulpiciens pour que, éventuellement, il puisse y avoir une monographie qui va expliquer l'histoire de, d'après moi, probablement la plus belle, la plus grande bibliothèque en Nouvelle-France. Merci.
Alors, merci, M. Brisebois. Donc, je laisse la parole à M. Lajeunesse. Je vous rappelle qu'il y aura donc une période de questions, mais après nos trois conférenciers.
On vous a parlé de la Nouvelle-France. Je vais vous parler du 19e siècle. Les Sulpiciens ont toujours été à Montréal de gros importateurs de livres français et d'importants diffuseurs de la culture française. Je parle de la culture de France. On sait que la large culture et les moyens financiers de plusieurs de leurs supérieurs, de Gabriel de Quillus, de François Delier de Casson, de François Vachon de Belmont, à Étienne Montgolfier, puis d'ailleurs l'exposition et le catalogue des livres des messieurs sont là pour l'attester, contribuèrent grandement à l'acquisition de livres français ou de livres publiés par les éditeurs de France. Il en est de même au 19e siècle. Les supérieurs Joseph-Henri Auguste Roux, qui était supérieur de 1797 à 1831, Joseph-Vincent Quiblier, de 1831 à 1846, Dominique Garanet, de 1850 à 1860, Louis Collin, supérieur de 1881 à son décès en 1902, furent des clercs cultivés, des hommes d'études et plusieurs d'entre eux des bibliophiles. Et ce goût des livres ne s'arrêtait pas aux supérieurs, il s'étendait aussi aux messieurs du séminaire eux-mêmes. Les fonctions qu'exercent les Sulpiciens à Montréal en tant que seigneurs et curés exigent un usage du livre et de l'écrit. La prédication et la liturgie nécessitent le recours à des publications en ce domaine. L'enseignement pratiqué au Collège de Montréal et au Grand Séminaire après 1840 exige l'usage de manuels, d'ouvrages de référence, de sommes en divers champs du savoir publiés par les grandes maisons parisiennes. L'administration de la paroisse, des seigneuries, a besoin de livres techniques, de livres de comptabilité, de droit civil et ecclésiastique. Cette communauté de prêtres séculiers, en majorité d'origine française, peut se targuer au cours de cette période d'une formation et d'un niveau de culture supérieur à la moyenne du clergé du Bas-Canada. L'intérêt pour le monde de l'écrit, le besoin de se doter d'une bibliothèque personnelle, le recours constant à des publications françaises récentes attestent la largeur de leur champ d'intérêt et de leur univers culturel. Et je voudrais, dans un premier temps, vous parler de deux beaux cas, le cas de M. Le Saunier et le cas de M. Comte. De 1793 à 1802, 18 Sulpiciens français réfugiés à Londres à cause de la Révolution française reçurent du gouvernement britannique la permission de passer au Canada. Ils vinrent s'ajouter aux 10 Sulpiciens qui assuraient alors la mission du séminaire de Montréal, alors que ceux-ci avaient été 44 en 1755 au service d'une population moindre. Ces Sulpiciens nouvellement arrivés au Canada ont tout fait de faire venir des livres français par Londres ou New York, et les archives du séminaire Saint-Sulpice de Paris font mention de nombreux envois de livres de 1796 à 1806 par l'intermédiaire de l'abbé François Bourret, ancien directeur du séminaire sulpicien d'Orléans, qui avait fondé pour les réfugiés français à Londres une chapelle, de French Chapel. Son principal correspondant à Montréal fut Candide Michel Le Saulnier, arrivé lui aussi à Montréal en 1793, et fut curé de Montréal de son arrivée jusqu'à son décès en 1830. Le Saulnier commença à commander des livres pour lui-même, pour la bibliothèque des prêtres de Saint-Sulpice, mais aussi pour des prêtres extérieurs au séminaire de Montréal, qui souvent passaient au séminaire quand ils venaient à Montréal, pour des laïcs amis du séminaire, souvent anciens élèves du Collège de Montréal. Les champs d'intérêt de Le Saulnier étaient vastes. On y décèle un intérêt pour les philosophes du 18e d'un but d'apologétique, la physique, la littérature royaliste, le droit civil et ecclésiastique, en relation surtout avec la contestation des biens du séminaire qui fut un grand problème pour le séminaire de 1760 à 1840. Aussi, intérêt pour l'histoire contemporaine en mettant l'accent sur les relations Église-Révolution, la spiritualité à l'intention des prêtres et des laïcs, la prédication, beaucoup de sermons et sermonnaires, l'explication du catholicisme aux Anglais protestants, donc l'application au cas montréalais, les livres de prière, des chants, d'exercices de piété, de manuels d'instruction chrétienne, de la jeunesse et enfin des images pieuses. Ce qui est curieux, c'est que de 1796 à 1806, quand le Saunier s'adresse à l'abbé Bourret à Londres, il ne lui adresse que des champs d'intérêt et non pas des titres de livres. Donc, on a des budgets, on a des montants d'argent, on a des caisses de livres, on a des champs d'intérêt, mais on n'a pas le titre des livres eux-mêmes. Au début du 19e siècle, les volumes 9 de langue française étaient achetés chez le libraire Dulot de Londres et les volumes anglais chez le libraire Keating de la même ville. Les achats sont considérables. Seulement en 1806, pour vous donner un exemple, le Saunier consacre la somme de 223 livres sterling, qui est une somme très importante pour l'époque, pour ses achats de livres. De 1812 à 1815, par exemple, il importe seulement chez Dulot, pour plus de 1069 livres sterling. D'ailleurs, à partir du décès de l'abbé Bourret, survenu en 1807, le Saunier traite directement maintenant avec le libraire Dulot à Londres. Il est intéressant de donner quelques exemples de commandes de le Saunier, surtout après 1807, quand il adresse des titres. En 1808, il commande 12 exemplaires de l'histoire de l'Église, 12 exemplaires de l'histoire de la religion, le dictionnaire de l'Académie française en 21 volumes, la théologie de Poitiers en 6 volumes. En 1809, parmi les nombreux titres commandés, mentionnons 20 exemplaires du dictionnaire français-latin de l'allemand, 20 exemplaires du dictionnaire latin-français de Boudot. Donc, on voit très bien que ces volumes sont pour le Collège de Montréal. 14 exemplaires de la Bible de Royaumont, le dictionnaire de grammaire et littérature en 6 volumes, le génie du christianisme de Chateaubriand en 5 volumes, 5 exemplaires d'Histoire universelle de Bossuet en 4 volumes, 50 exemplaires d'un volume intitulé Garden of the Soul, 24 exemplaires du Daily Confession, 50 exemplaires du First Catechism, donc des volumes pour les Irlandais montréalais, pour la pratique religieuse, beaucoup de livres d'exercices pour la communion, de formulaires de prière, de manuels du chrétien, en de nombreux exemplaires. Après la chute de Napoléon et le retour à la paix, les conditions de la librairie française changent et il y a un retour de la concurrence chez les fournisseurs. Le Saunier tire grandement profit des nouvelles conditions dans les années qui suivirent. Il profite aussi du retour en France du sulpicien Jean-Baptiste Thévenet pour passer commande. Il acquiert en 1817, par exemple, notamment l'histoire ecclésiastique de Claude Fleury en 40 volumes, la Bible de Carrière en 10 volumes, celle de Vence en 17 volumes, celle de Sacy en 14 volumes, le cours de littérature de l'Harpe, les Martyrs de Chateaubriand, les œuvres de Madame de Genlis. En 1819, le Saunier acquiert l'histoire de la Nouvelle-France de Charlevoix, qu'il décrit lui-même, je cite, « comme un ouvrage extrêmement rare, payé un prix fou ». Fin de la citation. Thévenet fournissait en livre son ex-confrère sulpicien, l'évêque Jean-Jacques Lartigue, à qui il fait connaître les œuvres de Lamennais. À son décès, le Saunier était relayé par le nouveau supérieur Quiblier, qui fait venir en 1831 8000 grammaires latines et françaises et quelques centaines de petits dictionnaires pour commençants. Quiblier était client du libraire parisien Gaume, et il s'était porté caution chez cette maison d'affaires pour le libraire montréalais Édouard Raymond Fabre. Un autre exemple singulier de sulpicien bibliophile, le procureur Joseph Comte, né à Montréal, nommé procureur de Saint-Sulpice en 1823 et qui a occupé ce poste pendant 41 ans jusqu'à son décès en 1864. Le poste, la fonction de procureur était chez les sulpiciens montréalais, on l'a dit lors de son décès dans les journaux, la fonction la plus importante après celle de supérieur, en raison des biens considérables gérés par le séminaire. Très versé dans le droit, au point que les principaux avocats de la ville le considèrent comme un des leurs, Comte était le type même de clerc gestionnaire. D'ailleurs, c'est lui qui a géré la construction de l'église Notre-Dame, du grand séminaire, des écoles des frères écoles chrétiennes, de refuges, d'asile, la construction du cabinet de lecture en 1860. Cet homme qui était constamment toute la journée penché sur ses livres de camp, sans jeu de mots, avait un loisir. Peu de loisirs, mais il avait un loisir. Et son loisir, c'était le livre, la librairie française, les nouveaux catalogues, les nouvelles publications. On peut suivre, notamment pour les années 1836 à 1850, ses commandes de livres à son confrère sulpicien de Paris, Joseph Carrière. Carrière, d'ailleurs, qui était venu à Montréal en 1829 comme visiteur du séminaire de Montréal. Il était au séminaire Saint-Sulpice de Paris et deviendra supérieur général de Saint-Sulpice en 1850. Il y a dans les archives de Saint-Sulpice de Montréal et de Paris cette correspondance entre ces deux clercs, étalée sur plusieurs décennies. Il lui écrivait d'ailleurs, et je cite, Comte écrivait, « avec de bons livres qui ne coûteront à peu près la moitié du prix qu'on les paie à Montréal, je serai en état d'aider beaucoup de jeunes gens et de jeunes ecclésiastiques et de favoriser la piété dans les écoles et les catéchismes en y répandant de bons livres. » Fin de citation. Comte servit d'intermédiaire pour d'autres sulpiciens et pour les communautés qui vivaient dans la mouvance du séminaire, comme les frères des écoles chrétiennes, les religieuses d'Hôtel-Dieu. Il recevait de Paris des périodiques, la Revue catholique, l'Université catholique, la Bibliographie catholique, puis souvent des ouvrages bibliographiques. Quant à ce dernier périodique, la Bibliographie catholique, qui est outil bibliographique par excellence, Comte écrivait, j'en suis bien content, j'aime cet ouvrage qui fait assez bien connaître les ouvrages nouveaux, surtout ceux qui sont condamnables. À partir de 1845, il adresse et désidérata directement au libraire de Paris, tout en continuant à correspondre avec Carrière, qui devient, comme je l'ai dit, supérieur général. D'ailleurs, de 1836 à 1850, pas une lettre de Carrière, pas une lettre à Carrière, sans parler de livres, de brochures, de bibliographies, de catalogues, d'envois, de traites, de conditions matérielles de la librairie. Les libraires fournisseurs du séminaire Saint-Sulpice de Montréal appartiennent sans conteste au monde des éditeurs catholiques. Ce sont MAM, Gaume, Le Coffre, Péris, Poussielgue, Séguin, Ruzan. D'ailleurs, toutes ces maisons que vous retrouvez dans l'histoire de l'édition française comme des maisons éminemment orthodoxes. Les achats de comptes peuvent être établis à 44 300 francs pour les années 1842-1846 et pour la seule année 1848, qui était, comme vous savez, une année de crise politique à Paris, la Révolution de 48, et aussi une crise de l'édition. Il effectue cette année-là deux traites de 500 livres sterling qui lui rapportent 26 000 francs. Comte dit, ça va mal, c'est le temps d'acheter. Quand on passe pour immensément riche, la réputation qu'on lui faisait chez les libraires, on lui fournissait des volumes en quantité. La deuxième portion dont je voudrais vous parler, c'est les bibliothèques paroissiales, dans lesquelles les Sulpiciens ont été impliqués pendant un siècle. Donc, l'œuvre des bons livres, le cabinet de lecture paroissiale, qui mène jusqu'à la bibliothèque Saint-Sulpice, dont vous parlera mon collègue. En 1844, le supérieur Quiblier annonçait la fondation d'une bibliothèque paroissiale à Montréal sous le nom de l'œuvre des bons livres. Les Sulpiciens faisaient entrer publiquement le livre dans leur champ d'apostolat pour près d'un siècle par la succession de l'œuvre des bons livres, du cabinet de lecture paroissiale, du Cercle Ville-Marie et de la bibliothèque Saint-Sulpice. Ils donnèrent aussi aux bibliothèques paroissiales un rôle de premier plan en lecture publique chez les francophones du Québec, et cela jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, ils sont à l'origine de cette institution de bibliothèque paroissiale qui a tenu lieu pendant un siècle de bibliothèque de lecture publique pour les Québécois francophones. Le procureur Comte n'était pas étranger au démarrage de cette nouvelle œuvre paroissiale et dès les débuts, il acceptait le poste de trésorier du comité de directeur de l'œuvre. Dès l'automne 1844, Comte achetait des livres que l'on retrouve dans le catalogue de 1845 et aussi dans celui de 1862, à côté des œuvres de Thiers, du comte de Beaumont, l'ami de Tocqueville. Il commandait des vies de saints, surtout des 12, surtout des livres pour des gens peu instruits, comme il l'écrivait lui-même à Carrière. Vous êtes au début de l'alphabétisation chez les Québécois, dans le début de la décennie 1840, avec Jean-Baptiste Meilleur. Cette bibliothèque de l'œuvre des bons livres, ouverte avec une collection de 2400 volumes en 1845, obtient un succès considérable. Le prêt de ces volumes, généralement édifiants, 49 % des ouvrages du catalogue de 1845 sont des ouvrages religieux, sont souvent mièvres, est élevé pendant la seconde partie de la décennie 1840. Pour une population d'environ 19 000 francophones en 1843, évidemment pour Montréal, c'est trop facile d'obtenir la population de Montréal. On m'a appris que pour 1810, c'était 10 000 personnes à Montréal, 1820, 20 000, 1830, 30 000, 1840, 40 000, jusqu'à 1850, et après ça, ça monte en flèche pour faire une métropole de cette ville. Donc, en 1843, il y avait 19 000 francophones dans cette ville et 26 000 en 1851. Et vous arrivez à un chiffre de 25 000 prêts par année tout au long de ces années de 1845 à 1850, ce qui prouve que la bibliothèque recevait un support important de la population de langue française de Montréal. Dénotait aussi un besoin de lecture, un intérêt et un besoin de lecture à l'heure de l'alphabétisation de la population sous la surintendance de Jean-Baptiste Meilleur. De plus, on retrouve dans les archives maints témoignages sur l'audience de la lecture collective, qui est un phénomène intéressant, qui était fait dans les familles. Et on établissait environ 4 personnes le nombre de gens qui entendaient la lecture d'un livre emprunté. Donc, il y avait un effet multiplicateur. C'était avant la radio et la télévision. Avec la fondation du cabinet de lecture paroissiale en 1857, et la construction d'un nouvel immeuble en 1860, la bibliothèque occupait une place centrale dans le consortium culturel du cabinet avec les conférences publiques, les débats du cercle littéraire et la revue L'écho du cabinet de lecture paroissial. La collection établie à plus de 10 000 volumes avait été considérablement rénovée par l'addition depuis 1856, par le dynamique directeur, le sulpicien Louis Regour, de plusieurs milliers de volumes de l'édition française contemporaine. Avec l'assoupissement des conférences du cabinet et des débats du cercle au début de la décennie 1870, c'est un peu normal, ça faisait 15 ans que Montréal recevait des conférences publiques constamment par la saison d'automne au printemps. Il y en avait à l'Institut canadien, à l'Union catholique, à l'École normale Jean-Cartier. Il y a eu une mode, on a parlé de la mode des lectures. D'ailleurs, au début des années 1870, cette mode était passée, on en était à la musique et au sport. Donc, après 1870, la bibliothèque continue d'offrir ses services à la population montréalaise. En 1885, elle fut accolée en quelque sorte au cercle Ville-Marie, résurrection du cercle littéraire, qui, en regroupant les étudiants de la nouvelle Université Laval de Montréal et les jeunes professionnels de la ville. Au milieu de la décennie 1890, au moment où le journal Canada Revue réclamait une vraie bibliothèque publique et où des groupes de citoyens relayaient l'expression de ce besoin, le sulpicien Wilfrid Hébert, directeur du cercle Ville-Marie, rajeunit une collection qui stagnait depuis une vingtaine d'années. Les deux catalogues qu'il publia, l'un en 1898 avec 11 000 volumes, élagués d'ailleurs, un supplément en 1904 avec l'ajout de 2200 volumes montre une bibliothèque qui a acquis beaucoup de volumes récents d'éditions françaises en mettant l'accent sur la littérature et l'histoire qui y dominent nettement. Donc, la bibliothèque paroissiale au début du 20e siècle, qu'on appelle aussi la bibliothèque du Cercle Ville-Marie ou la bibliothèque Notre-Dame, annonce déjà dans son orientation la bibliothèque Saint-Sulpice qui ouvrira ses portes en 1915. Donc, tout au long du 19e siècle, les Sulpiciens ont fait commerce directement avec les maisons françaises, en ignorant les libraires montréalais qui leur en tiennent rigueur. En cela, leur action diffère grandement de la stratégie de l'évêque Bourget, qui écrivait à leur supérieur, Dominique Grenet, en 1861, je cite, « Je pense que nous gagnerions, sous tout rapport, à laisser à nos libraires la chance du commerce du livre, et qu'en les encourageant, on n'aurait plus de chance de les empêcher de vendre de mauvais livres. Autrement, pendant que nous spéculerons sur quelques bons livres, ils en vendront beaucoup de mauvais. » Fin de citation. Les Sulpiciens acquièrent différents genres de livres pour différentes clientèles et différents usages. Des livres savants de haut niveau pour leur usage personnel et pour l'exercice de leurs fonctions religieuses et civiles. Quant aux livres offerts dans les premières années d'existence de l'œuvre des bons livres, nettement liés à l'alphabétisation, ils sont des livres relevant de la culture populaire. Ils concourent à un véritable processus d'acculturation de la population francophone de Montréal. Avec les années, les collections se sont modifiées et on peut affirmer qu'à la fin du 19e siècle, ces livres appartiennent davantage à la culture savante. Et en cela, cette bibliothèque paroissiale annonce déjà la bibliothèque d'études Saint-Sulpice. Merci.
J'ai intitulé mon texte « La bibliothèque Saint-Sulpice, l'amorce d'une bibliothèque nationale pour le Québec ». Mais en fait, on va reculer un peu en arrière. Le 20 février 1944, le Petit Journal publie un article qui s'intitule « Centenaire de la bibliothèque Saint-Sulpice ». Et c'est signé Phil. Phil, c'est le pseudonyme de Philippe Laferrière, qui est bibliothécaire à Saint-Sulpice. À la réouverture 1940, avant la réouverture, et qui était bibliothécaire aussi dans l'équipe de René Garneau, qui va étudier les collections de la Bibliothèque Saint-Sulpice vers 1939, 37-39, pour suggérer, en fait, recommander au gouvernement du Québec du temps d'acquérir la collection et la Bibliothèque Saint-Sulpice et ses collections, pour le bienfait des Québécois en général et des Montréalais en particulier. Donc, Philippe Laferrière, ce sera le même aussi personnage qui, en 66, juste à l'époque où la Bibliothèque Saint-Sulpice est toujours Saint-Sulpice, mais que la Bibliothèque nationale s'en vient dans ses murs. C'est la Société historique de Montréal, dont il est le président, je pense, à l'époque, qui va lui demander de faire une conférence qui va s'intituler « Les origines de la Bibliothèque Saint-Sulpice et de ses trésors », conférence faite le 21 avril 1966, et suivie d'un mot de Georges Cartier, qui vient, lui, d'arriver à la bibliothèque depuis un an ou deux, et qui va présenter, après la conférence de Philippe Laferrière, un mot sur le présent et l'avenir de la Bibliothèque Saint-Sulpice. On sait que, quelques mois plus tard, la Bibliothèque Saint-Sulpice deviendra la Bibliothèque nationale. Personnellement, moi, j'aurais été tenté de dater la Bibliothèque Saint-Sulpice ou même la Bibliothèque nationale de beaucoup plus ancienne. En fait, on fête le 350e anniversaire de l'arrivée des Sulpiciens. Les Sulpiciens, on le sait, sont arrivés ici pour s'établir. Ils ont amené armes et bagages, meubles et tout, et livres. Bon, Michel nous a dit que des premiers Sulpiciens, on n'a pas trouvé des livres appartenant à ces premiers Sulpiciens, les premiers qui arrivent. Ils sont probablement encore au séminaire. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas 350, mais 325 avec Vachon de Belmont et Dallier de Casson, mais ça fait quand même énormément de temps parce qu'on sait que les livres qui sont là, à ce moment-là, sont, ni plus ni moins, le noyau de la Bibliothèque nationale. Petit détail aussi, les Sulpiciens arrivent donc, s'établissent à Montréal et débarquent le 12 août 1657 à Ville-Marie, dans l'île de Montréal. Et c'est le 12 août, 310 ans plus tard, que l'Assemblée nationale, le 12 août 1967, que la loi de la Bibliothèque nationale sera adoptée par un vote unanime des deux parties en chambre. Les rôles et les fonctions d'une bibliothèque nationale, à partir de notre loi, je vais faire un petit panorama, tout en rattachant le rôle de la Bibliothèque Saint-Sulpice, qui commence déjà à être une bibliothèque nationale à partir au moins de sa partie saint-sulpicienne, là, 1915. La loi dit qu'on doit rassembler, conserver et diffuser le patrimoine documentaire québécois publié, publié donc, et pas nécessairement publié au Québec, ce qui ne peut pas arriver avant la première moitié du 18e siècle, et des documents qui s'y rattachent. Bon, on va donc assurer le dépôt légal à partir de la bibliothèque, à partir de la de 1968, à partir de, du dépôt de la loi, mais le dépôt volontaire va commencer en 1921, en fait, avec une idée donc de Justus Fauteu qui va demander aux écrivains canadiens ou canadiens français ou québécois, en tout cas moins, de faire un dépôt volontairement à la Bibliothèque Saint-Sulpice. Pourquoi Saint-Sulpice et non pas la bibliothèque, par exemple, du Parlement de Québec? C'est comme ça. Justus Fauteu est quand même un bibliothécaire, je dirais, d'envergure internationale et nationale, ce qui n'est pas le fait de beaucoup de bibliothécaires qui étaient autre chose autrement. Justus Fauteu, la bibliothèque doit aussi acquérir toute publication relative au Québec. En fait, on va le faire depuis bien longtemps, mais avec Fauteu, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va réussir à acquérir tout ce qui touche, évidemment, le fait français en Amérique, de la Louisiane à la baie du Thon. Et on va assurer aussi, parce qu'il va développer une bibliothèque, c'est son rôle, on l'engage pour ça, donc il va développer une bibliothèque nationale dans la définition de ce qu'on avait d'une bibliothèque nationale à ce moment-là, c'est-à-dire une bibliothèque comme un peu Washington, mais un plus petit, évidemment. Alors, une bibliothèque avec des collections universelles et une encyclopédique. Le deuxième rôle, c'est celui de la conservation. On ne peut toujours pas se plaindre de ce côté-là parce qu'on a toujours les ouvrages qui ont été acquis depuis les premiers sulpiciens qui arrivent ici. On en a beaucoup, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Et la diffusion. Diffusion et promotion. Bon, la diffusion se fait très bien pendant tout le 19e siècle, en tout cas depuis 1844, parce qu'il se fait toutes sortes d'activités autour du livre, dans les mêmes locaux, pour supporter la lecture, mais aussi l'écrit et les écrivains. On va continuer ça à la Bibliothèque Saint-Sulpice. On va aussi, bon, comme je vous l'ai dit, commander les ouvrages à partir de 1921 chaque année, mais ça va donner lieu aussi à une exposition des livres québécois l'année suivante, donc l'ancêtre du Salon du livre. Et ça va donner lieu aussi à une bibliographie qui va être faite en collaboration avec les gens de la Bibliothèque publique de Toronto et qui vont être publiés donc annuellement, une section québécoise préparée par Fauteu et une section anglaise préparée par les gens de Toronto, dont Marie Trimaine à un moment donné. La publication globale va s'appeler « The Canadian Catalogue of Books », qui sera publié de 1921 à 49 et qui va donner lieu par la suite à, qui va être reprise, c'est-à-dire par Canadiana, après que la Bibliothèque nationale du Canada sera mise sur pied. Les activités aussi de la Bibliothèque Saint-Sulpice, il y a des semaines d'histoire du Canada, des colloques sur semaine d'éducation et d'action sociale, semaine du livre canadien, des récitals, des conférences, des cours. La façon dont l'édifice a été conçu et commandé, d'ailleurs, va permettre tout ça. C'est un centre culturel qui permet à la fois la recherche et la diffusion par toutes sortes d'activités culturelles. Justus Fauteu est un personnage marquant dans la culture du 20e siècle. Et je vais vous le présenter en regard de ce qu'il a pu faire, lui, et finalement changer paysages et de la recherche et des bibliothèques ici. Petit détail à propos de la Bibliothèque nationale. Monsieur Cartier va faire comme toute Bibliothèque nationale ou comme même les bibliothèques sulpiciennes avant, il y aura un bulletin. Et le bulletin va commencer en 1977, alors que la bibliothèque n'est toujours pas encore Bibliothèque nationale. Et c'est sûrement un choix de sa part. Il va, les deux premiers numéros de, de ce bulletin vont s'intituler « Bulletin de la Bibliothèque Saint-Sulpice ». Il sait que la Bibliothèque nationale s'en vient. Et c'est à partir du volume 1, numéro 3, que le périodique va s'appeler bibliothèque, « Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec ». C'est, d'après moi, un hommage au prédécesseur de Georges Cartier, par lui, et à Saint-Sulpice en particulier. Monsieur, la jeunesse nous a parlé du cabinet de lecture, là, qui est le dernier bâtiment occupé par les bibliothèques sulpiciennes et ses activités. En 1900, on décide de le localiser ailleurs et autant que possible dans un quartier habité et assez, quand je dis habité, je veux dire utilisé là, par la population en général. Et c'est le quartier latin de l'époque. Et on va discuter avec l'université. En fait, il y a des échanges entre les Sulpiciens et l'université pour que la Bibliothèque générale de l'université et la Bibliothèque Saint-Sulpice deviennent une bibliothèque commune. Ça se discute entre 1900 et 1910. Ça se décide à peu près après 1906, à peu près. Et donc, on construit un projet donc, de bibliothèque générale pour l'université et la population de chercheurs de Montréal sur la rue Saint-Denis. Il y a une ambiguïté qui est véhiculée, en fait, au moins pendant toute presque la moitié du 20e siècle, c'est que c'est une bibliothèque, c'est la bibliothèque de l'université. Un jour, la bibliothèque, l'université n'aura plus de bibliothèque parce qu'elle va déménager. Saint-Sulpice va être encore fermé, parce qu'on va fermer en 31. Mais dans l'annuaire de l'université de 1415, on indique « Bibliothèque générale », la Bibliothèque Saint-Sulpice, 340 rue Saint-Denis. L'annuaire de 1915-16 va indiquer pour l'université, Bibliothèque générale de l'université, Bibliothèque Saint-Sulpice, même adresse évidemment, avec une carte du campus où on situe tous les éléments du campus, dont la bibliothèque, évidemment la Bibliothèque générale. Il y a à la fois un intérêt et une ambiguïté. Ça va continuer. Le plus haut sommet de cette ambiguïté, c'est en 1926, où Mgr Moreau va faire paraître un article sur l'Université de Montréal dans une revue d'architecture anglophone, la revue de l'Institut royal d'architecture, où il présente l'Université de Montréal et, entre autres choses, sa bibliothèque centrale, qui est la Bibliothèque Saint-Sulpice. Avant ça, en 1917, c'est l'université elle-même qui va publier une mosaïque en 1917 dans le journal La Presse, 7 décembre 1917, où on voit parmi tous les bâtiments celui de la bibliothèque. Mais ça peut paraître incongru, mais c'est probablement aussi une façon française, parce que les Sulpiciens sont français, tout ce qui fonctionne par rapport à cette institution-là est toujours d'origine ou d'influence française. Bon, le modèle français, d'abord, un quartier latin, c'est français. Il y en a un à Paris. C'est par opposition à un campus anglo-américain, comme McGill, par exemple, va en être un, ou ceux qui sont en Angleterre ou aux États-Unis. Alors, un quartier latin, c'est ça SM un peu partout dans le quartier. Le style architectural, on y reviendra plus tard, mais aussi va avoir son importance. Le modèle de la bibliothèque Saint-Sulpice, publique et universitaire, c'est un peu un autre modèle français, Sainte-Geneviève à Paris, qui est dans le quartier Saint-Sulpice, c'est le quartier en tout cas de l'église et du séminaire de Saint-Sulpice à Paris, très proche. C'est un modèle français, c'était idéal. C'est situé dans le quartier latin parisien. Ça dessert la Sorbonne et la population des chercheurs. Et ça représente aussi La Bibliothèque Sainte-Geneviève a depuis 1828 une vocation nationale. Elle reçoit un des 7 ou 5 exemplaires là, du dépôt légal français. On parle aussi souvent de l'état des bibliothèques au Québec, historiquement. On est en retard, on se fait dire ça tout le temps. C'est vrai, là, on ne peut pas nier. Cependant, on peut faire un petit bémol. Par exemple, en 1883, la Bibliothèque publique de Toronto est fondée et elle a son premier grand bâtiment en 1909. En 1855, l'Université McGill est fondée. Sa bibliothèque, par contre, est construite en 90-91. Et en 1893, on va engager son premier bibliothécaire avec le titre. 1898, c'est la Bibliothèque publique de Westmount. On est en retard, mais ce n'est pas des dizaines d'années, là, c'est quand même quelques années. Aussi, il ne s'agit pas de lecture publique, ça je veux bien, là. Il s'agit plutôt de lecture savante ou de, en tout cas de recherche, de lecture de recherche, mais tout de même, c'est un accès à la lecture ou au livre. Bon, Judith Fauteux était le candidat idéal. Je pense que les Sulpiciens sont allés chercher, malgré son parcours déjà intéressant. C'est un élève de Saint-Sulpice, il le connaissait bien. Il est actif, d'ailleurs, quand il sera étudiant au Cercle de Marie, à la fin du 19e siècle. Il fait des études de droit, il est avocat, il entre au barreau en 1903, mais il pratique surtout et avant tout le journalisme. Il est journaliste à partir de 1900, donc ça le situe au début du siècle, vraiment. Il va fonder Le Rappel, qui est un journal conservateur qui va paraître de 1902 à 1904, puis il va être correspondant parlementaire pour le journal La Patrie à Québec jusqu'en 1909. De 1909 à son entrée à Saint-Sulpice en décembre 1912, il sera rédacteur en chef du journal La Presse. En 1901, il va faire paraître, bon, là, il commence sa carrière, il va faire paraître un plaidoyer sur la nécessité d'une bibliothèque à Montréal. Le plaidoyer apparaît dans un article de La Patrie du 21 décembre 1901. Qui s'intitule « Les bibliothèques publiques ». Évidemment, c'est les bibliothèques selon lui, mais c'est tout de même un plaidoyer pour l'ouverture d'une bibliothèque à Montréal. Évidemment, là, c'est toujours en regard de la querelle bibliothèque lecture publique et bibliothèque de recherche, bibliothèque, vous savez ce que c'est depuis 1840 au moins qu'on joue là-dessus, et ça va prendre du temps avant qu'on atteigne la fin du débat. Fauteux, c'est aussi un chercheur, un écrivain, un historien. Il va faire paraître ou il va faire certains ouvrages qui ne vont paraître qu'après son décès. Un armorial du Canada en 2 volumes, une bibliographie sur la question universitaire Laval-Montréal, Les Chevaliers de Saint-Louis au Canada, un ouvrage de 200, presque 300 pages. Le Duel au Canada, un ouvrage de 317 pages. Il va faire paraître une adaptation du Journal du siège de Québec en 1922 et avec Michel Lancelot, une défense de la langue française en 2 volumes, 1932 à 40. Il va aussi faire paraître une biographie de d'un Sulpicien qu'il aimait beaucoup, lui, et qui avait été supérieur en son temps et qui était d'ailleurs le supérieur à l'époque de l'ouverture de la Saint-Sulpice, c'est M. Lecoq. Monsieur Lecoq, souvenir d'un ancien séminariste. Moi, je pense que Fauteux avait été un bibliothécaire d'envergure nationale. Évidemment, bon, on va dire qu'il était journaliste avant, il était avocat, mais il va devenir bibliothécaire. Il va entrer en relation avec des bibliothécaires. Il va, par exemple, Melvin Dewey. Locke à Toronto, Gould à McGill, et ensemble, ils vont établir ce que peuvent être, ou lui, va faire aussi des développements du point de vue de la classification, par exemple, ou du classement des ouvrages, pour ce qui est de la localité, des ouvrages locaux québécois, entre autres, la réalité locale québécoise. Il va faire aussi entrer la bibliothéconomie comme science dans le Québec actuel. Il va, comme je disais, bon, élaborer des classes du oui propres à nous, par exemple en histoire, certaines formes de littérature, en droit, ou notre droit à nous, Canada français. Il va, en ouvrant Saint-Sulpice, la bibliothèque, tout de suite mettre sur pied bon, un catalogue sur fiche et non plus un catalogue imprimé. C'est une nouveauté pour les bibliothèques francophones ici. Il va élaborer et écrire des documents à bibliothéconomie parce qu'il va être un des premiers professeurs de l'école des bibliothécaires. D'abord, en donnant des cours d'école de bibliothéconomie en français à McGill et plus tard, en étant fondateur avec Marie-Claire Davelui de l'école des bibliothécaires à l'Université de Montréal. Et il va représenter la bibliothèque de façon officielle, je le dirais de façon presque nationale, là, avec, par exemple, l'entente sur le dépôt légal volontaire des documents québécois ou canadiens français à la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire à la Bibliothèque Saint-Sulpice, parallèlement à ce qui se fait à la bibliothèque de la ville de Toronto, avec Marie Trémaine et ses collègues. Il va représenter le Canada du point de vue de l'écrit deux fois à Londres dans des expositions de l'Empire britannique en 1924 et 25, et il va représenter aussi l'écrit québécois. Donc lui va préparer le catalogue à une exposition préparée pour la réunion annuelle du American Library Association à Toronto en 1927. On va lui donner le mandat. On va donc il arrive à Saint-Sulpice en 1912. On va le chercher en décembre 1912. Et il a le mandat de créer et de mettre sur pied, de développer le meilleur centre de documentation et de recherche en Amérique du Nord, francophone. De développer une collection la plus exhaustive possible de documents sur le Québec et le Canada français et le passage des Français en Amérique. Et, je l'ai dit tout à l'heure, il va aussi développer, comme on le faisait à l'époque, une bibliothèque universelle étonnamment riche. Il va entrer à la bibliothèque, en fait, en 1912. Les travaux de construction vont finir en 14. Alors, il travaille à superviser la fin des travaux. Il va aussi, et à l'aménagement, évidemment, il va aussi, en janvier 1913, faire une tournée des bibliothèques américaines avec l'architecte Eugène Payette. Et il va faire le tour des bibliothèques de bon, plusieurs, là, dont New York, Philadelphie, Washington, Providence, Boston, Albany. Et il va en profiter aussi pour entrer en contact justement avec les bibliothécaires ou les gens qui sont représentatifs là, soit des systèmes de classement comme Dewey ou des systèmes de rangement comme Green à Washington. Et on va établir aussi un réseau de contact avec les gens des sociétés historiques locales canadiennes-françaises par toute la Nouvelle-Angleterre, entre autres, et les États où il y a encore des francophones. Et ils vont acquérir aussi des documents par ces sociétés aussi. Ces contacts vont durer tout le temps qu'il est à la Bibliothèque Saint-Sulpice. Il y aura donc des relations privilégiées, je dirais, avec Locke à la Bibliothèque des publics de Toronto, Trémaine, Marie Trémaine aussi à Toronto, Dewey, et Gould à McGill. Pour le développement des collections de la nouvelle bibliothèque donc, qui ouvre, il commence tout de suite en 1913 à jumeler ou enfin à rassembler les bibliothèques sulpiciennes, celles qu'on lui donne, c'est-à-dire les bibliothèques, ce qui est rendu dans le cercle de Marie. On a vu par mes prédécesseurs tout ce qu'il pouvait y avoir dans cette bibliothèque. Donc, les collections sulpiciennes, l'œuvre des bons livres, le séminaire, mais il va aussi avoir droit à puiser dans les collections sulpiciennes. Le procureur de l'époque, Wilfrid Hébert, est un sulpicien éveillé aux bibliothèques. C'est lui qui va diriger le cabinet de lecture vers la fin. C'est lui qui va faire aussi les catalogues, les deux derniers catalogues. Et il sait l'intérêt grandissant des Montréalais pour la recherche. Bon. Alors, il sait aussi qu'ils ont que, dans les collections sulpiciennes un certain nombre d'ouvrages qui seraient mis, qui, s'ils étaient mis à la disposition des chercheurs, seraient très avantageux, et ce qu'ils ne peuvent pas faire, eux, dans leurs locaux. Alors, donc, il va permettre à Fauteux d'aller en chercher au cabinet de lecture, ça c'est sûr, mais au séminaire de Saint-Sulpice, la rue Notre-Dame, au Collège de Montréal, au Grand Séminaire, au séminaire de philosophie. Il va aussi aller faire des achats massifs, on le dit, en même temps que ses voyages aux États-Unis, mais aussi en France, où il va passer, enfin en Europe, mais en France en particulier, où il va passer 4 mois de l'année 1913 et jusqu'en janvier 1914. Il va y retourner d'ailleurs en 1923. Il va acheter des dizaines de milliers d'ouvrages qui vont être réexpédiés ensuite, une fois reliés en France, par des bateaux provenant d'un peu partout. Là, le problème va arriver avec, ce sera la guerre à ce moment-là, alors il va falloir éviter les sous-marins allemands. C'est toute une saga romanesque, mais tout va arriver à bon port, donc. Et le noyau principal de la Bibliothèque Saint-Sulpice va être commencé, donc, de façon importante. Fauteux va continuer le modèle sulpicien d'acquisition, c'est-à-dire qu'il va d'abord chez les éditeurs, et les éditeurs tout court, et les libraires, chez les libraires français. Particulièrement Picard et Honoré Champion à Paris. Et sinon, il va faire affaire pendant des années avec deux sulpiciens qui sont à Paris. Eugène Charles, qui est le directeur de la Bibliothèque des familles à Paris, et qui sera le commissionnaire de 1913 à 24 pour tous les achats de livres faits en Europe par Fauteux. Et Adrien Vigourel, qui est aussi sulpicien à Paris, qui est directeur du séminaire de Saint-Sulpice, lui, à Paris, est chargé de la procure de Montréal. Alors, c'est lui qui va toujours payer les comptes que M. Hébert va lui envoyer. Fauteux va aussi développer les collections sulpiciennes de d'autres documents que les documents imprimés. Bon, évidemment, la collection comprend des monographies, brochures et livres, des publications gouvernementales, des revues, des journaux, tout ce qui est imprimé ou proche du livre, mais aussi des photographies, des fonds d'archives, des manuscrits musicaux, de la musique, des programmes de spectacle et même des gravures. Et aussi, je voulais vous parler du contenu, parce que même si M. La Jeunesse en a parlé, les fonds viennent d'une communauté religieuse, d'un ordre religieux, mais ce n'est pas une bibliothèque de religion. Bon, au départ, le cabinet de lecture, ou enfin l'œuvre des bons livres, 1845, il y a 49% de documents qui sont religieux. Mais avec le temps, dans les catalogues, celui de 1862, on voit que ça passe à 32%, en 98 à 21%, dans le supplément que fait M. Hébert, ça passe à 9%. Et la Bibliothèque Saint-Sulpice, en 1967, là, donc, ce qui est acquis tant que c'est le nom de Saint-Sulpice qui chapeaute l'institution, on est à 7,8%, ce qui est équivalent probablement à n'importe quelle bibliothèque actuellement. Donc, les collections sont répartis dans tous les domaines du savoir de façon et aussi du niveau pour figurer dans la palette des recherches universitaires. Oui. Je voudrais dire un petit mot du bâtiment, par ailleurs, parce que le bâtiment, lui, est aussi mode de langage. Un des sulpiciens de l'époque de la construction, le père, le monsieur juste un moment, monsieur Pierre Dupagne, qui était un professeur de mathématiques et dont on ne se souvient pas peut-être, là, mais dont vous connaissez sûrement une des œuvres, c'est le concepteur de la Croix du Mont-Royal. Alors, monsieur Dupagne dit, parce que là, il fallait faire attention au type de bâtiment, étant donné qu'il s'agit aussi d'un type de langage. Alors, M. Dupin dit, en 1911, « Dans tous les centres où on a cultivé l'idéal, dans tous les monastères, on a voulu que le scriptorium fût une œuvre d'art, et c'est aussi une œuvre d'art que Saint-Sulpice doit présenter à la population de Montréal, du Montréal d'aujourd'hui et de demain, car l'éducation d'un peuple ne se fait pas seulement par la parole et par le livre, mais autant et plus encore par le langage silencieux des arts et des monuments. » Le bâtiment sera choisi selon un modèle français pour véhiculer le même processus. Et aussi, tout, je veux dire, autant de la façade que de son intérieur, va aussi indiquer que, par les petits détails de l'architecture, que, par exemple, le monogramme des Sulpiciens, AM ou BSS pour Bibliothèque Saint-Sulpice, vont témoigner autant dans le portail de l'entrée que, par exemple, le livre du qui est au-dessus du portail aussi. Et juste un mot en finissant avec l'ex-libris. L'ex-libris de la Bibliothèque Saint-Sulpice va être une synthèse du programme de toute l'institution. On y retrouve les tours du séminaire de la montagne, les tours du fort. C'est une allusion évidemment à Saint-Sulpice. Les dates, 1684-1914. 1914, c'est l'ouverture. 1684, c'est la construction du séminaire. C'est un hommage à Dolier de Casson et Vachon de Belmont. Et aussi le fait que le séminaire se construit, donc l'institution est en pierre. Les érables et les feuilles d'érable, c'est le Canada français. Un semis de fleurs de lys, évidemment, c'est l'origine française. Le motif du livre ouvert, ça renvoie à la fonction. Sur une des tours, on voit un coq girouette qui renvoie, lui, à la France ancienne, les Gaulois. Et le nom, Bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal, et même deux boutons de rose qui s'appliquent au contexte britannique qui demeure depuis un certain temps. Alors, merci.
Voilà un beau tour d'horizon. Peut-être avant de passer aux questions, nous pourrions simplement, pour conclure ou pour synthétiser peut-être davantage vos communications, en somme, qu'est-ce que le monde du livre doit à Saint-Sulpice? Peut-être M. Brisebois, en premier, simplement en quelques mots.
Moi, je dirais que ce sont les Sulpiciens individuellement qui ont fait une contribution énorme en important eux-mêmes les livres et en n'attendant pas que l'institution le fasse, mais ils le font individuellement.
D'accord. Monsieur Lajeunesse, voulez-vous vous approcher
de la continuité d'une nation sur un siècle. Quand vous voyez l'œuvre des bons livres, cabinet de lecture paroissiale, Cercle Ville-Marie, Bibliothèque Saint-Sulpice, cette continuité d'institutions successives, c'est quand même singulier au Québec, que donnait lieu à la Bibliothèque nationale en 1967. Je pense que c'est important.
D'accord. Et M. Lasson?
Mais c'est probablement, évidemment, pour continuer dans le même sens, non seulement la continuité, mais la qualité de ce qui est finalement amassé dans ces collections-là, qui ont fait qu'on a choisi ce fonds-là pour en faire la Bibliothèque nationale, et qui est continué encore aujourd'hui, effectivement, la pérennité du savoir, bien, on ne l'a pas perdu, et même, c'est une image de marque.
Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Donc, si quelqu'un est intéressé, quelques questions pour la qualité de la captation sonore, il faudrait peut-être que vous alliez sur les côtés utiliser les micros. Mais si vous ne voulez pas, je peux reprendre la question tout simplement et répéter la question. Et donc, nos invités répondront. Par là, simplement, plus haut. Ah ben, si vous voulez, mais vous pouvez lever au micro, si vous voulez. Alors, Madame Lavigne, bibliothécaire de la Société historique de Montréal. Bonsoir.
Bonsoir. Je n'ai pas de questions, mais j'ai un souhait exprimé pour maintenir cette continuité dont nous venons de parler. C'est que le bâtiment de Saint-Sulpice redevienne une partie intégrante de notre Bibliothèque nationale.
Eh bien, c'est bien. Une autre question?
D'ailleurs, c'est un beau bâtiment de l'École des beaux-arts qui ressemble au musée Carnavalet à Paris. Je pense qu'il faut le maintenir sur la rue Saint-Denis, c'est évident. puis lui garder une mission dans le monde du livre. De toute façon, peut-on y donner une autre mission, puisque le bâtiment est classé? La salle de lecture, en tout cas.
Oui, le bâtiment. Et moi, je voudrais intervenir parce qu'on m'a donné ce petit passeport du quartier latin. C'est les étudiants qui le distribuent à tout le monde. C'est plein de rabais sur toutes sortes de choses. Or, ce qu'on voit pour la page de couverture, c'est la rue Saint-Denis face à la bibliothèque. Et ce qu'on voit à l'intérieur, le premier bandeau, c'est le fronton de la bibliothèque Saint-Sulpice, qui sert finalement d'image de marque du quartier encore, malgré qu'on ne soit plus dans...
De marqueur urbain. Oui, bien.
Oui. Alors, elle est refermée provisoirement, si on peut espérer qu'elle soit réouverte dans le cadre de la Bibliothèque nationale.
Merci. Donc, oui.
Oui, donc bonsoir. Ma question est de savoir, au niveau de l'acquisition à l'époque, au début, est-ce qu'on sentait une censure au niveau de l'acquisition de la part des Sulpiciens qui achetaient en France? Au niveau de certains domaines, disons, est-ce qu'on
avait... Oui? Votre question est plutôt destinée à M. Lajeunesse?
À qui pourrait répondre?
Là, à qui pourrait répondre?
Je ne sais pas si on peut parler de censure, mais les Sulpiciens achetaient dans un certain créneau. Chez certains libraires, à partir de certains catalogues, puis pour certaines fonctions et pour certaines clientèles. Donc, je pense que, oui, il y avait peut-être certaines censures. Je vous donne un exemple. Je faisais récemment une recherche sur les dictionnaires. On m'a demandé de faire un texte sur les dictionnaires de Nouvelle-France pour un colloque qui aurait lieu en 2008. Puis je regardais les bibliothèques des Sulpiciens. Qui sont très riches en dictionnaires. C'est probablement la bibliothèque de Nouvelle-France qui a le plus de dictionnaires. Il y en a de dictionnaires de langue en français, en espagnol, en latin, en italien, en anglais, dictionnaires de spécialité en droit civil et canonique, en justice, médecine, commerce. Puis ils avaient les grands dictionnaires de l'époque, Trévoux, Moreri, grand dictionnaire historique, le dictionnaire des cas de conscience de Pontas. Puis il y avait le dictionnaire philosophique de Bayle. Puis quand M. Montgolfier fait son dictionnaire, puis c'est le dictionnaire manuscrit que M. Montgolfier, le supérieur, fait vers 1780, il écrit à côté « Livre très mauvais », entre guillemets. Et donc, en réalité, ce livre-là, très sûrement, n'était pas destiné à la diffusion très large. Mais... Je ne sais pas, c'est difficile de parler de censure à une période, du 18e, 19e. Ils n'avaient pas l'impression de faire de la censure, mais ils faisaient du choix de livre d'une certaine manière. Ça doit être ça aussi, le choix de livre, c'est une forme de censure aussi.
Au 20e siècle, en tout cas, rendu à Saint-Sulpice, avant d'ouvrir, Fauteuil va demander à Wilfrid Hébert, ils vont écrire ensemble à Benoît XV, le pape du temps, pour lui demander d'alléger pour Saint-Sulpice l'index. Évidemment, il y aurait eu de la difficulté à être la bibliothèque de l'université. Et, par exemple, toute la littérature était presque, pas à l'index, mais enfin, non conseillée. Et donc, ça faisait déjà un pas là, de moins, parce qu'à la Bibliothèque publique de Montréal, ils vont avoir l'index jusqu'aux années 60 de notre de la fin du siècle qu'on vient de passer, tandis qu'à Saint-Sulpice, c'était le bibliothécaire qui pouvait prêter un livre sans qu'on se présente avec un billet de son confesseur.
Moi, j'aurais peut-être quelque chose à ajouter au niveau, pour la Nouvelle-France. Il y a de la censure qui arrive plutôt au niveau des exemplaires. Alors, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des Sulpiciens qui vont importer et lire certains livres. Et comme ce sont des prêtres, donc ils peuvent, eux, lire... Ces livres-là sans danger. Mais le problème qui se pose, c'est quand le livre fait partie plus tard de la bibliothèque du séminaire. Là, ça se garde un peu. Parce que là, le livre va être montré aux étudiants. On voit également Vachon de Belmont, je ne sais pas si vous avez vu peut-être dans l'exposition, des livres de Lully, où on a laissé comme une raison la musique, mais les mots ont été complètement raturés. Et ça, c'est quand Vachon de Belmont, probablement, montrait la musique aux jeunes autochtones et aux jeunes Français. Il ne voulait pas qu'ils lisent les poèmes d'amour qu'il y avait dans Lully. Donc, il y a une censure d'exemplaires qui se fait et une censure qui n'est pas au niveau de l'achat, mais une censure sur l'exemplaire une fois qu'on l'a en possession.
Est-ce que je peux... Oui, bien parce sûr. Qu'en tant qu'ami de la montagne, on a fait tout le tour de la montagne et des endroits historiques pour savoir si on doit les conserver et dépenser pour ça. C'est ça qui était leur travail. Est-ce que ça va pour
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et on nous a donc montré beaucoup de diapositives au séminaire Saint-Sulpice. Et on voit que tout ça leur appartient. J'habite dans le quartier. Peter McGill, moi, là, et comme le Square Cabot, par exemple, et on a des photos où tout le grand espace, tout leur appartient. À partir de Sherbrooke, et en descendant, vous avez des grands champs là, avec des animaux. Mais ce qui est étrange là-dedans, d'abord, c'est qu'ils ont fait le collège Marianapolis plus haut dans la montagne pour pas qu'ils soient mêlés à personne. C'était les purs, ceux-là. Alors, on sent qu'il y a une très, très, très forte censure parce qu'il ne doit pas être mélangé à personne, ces gens-là. Et Marianapolis, c'est un collège de philosophie très, très
C'était gros. Le collège de philosophie,
là. Il était immense, hein, c'est qui... Et j'ai plusieurs questions à vous demander. C'est pourquoi, justement, les Britanniques ont tellement insisté pour que les Sulpiciens viennent ici. Est-ce que, justement, c'était pour serrer les oies et les tenir en main, ou aussi à cause qu'ils avaient vraiment peur des Américains, parce qu'il y a une tour dans la montagne, elle est démolie aujourd'hui, mais il y avait une tour de guet dans la montagne pour surveiller au loin, pour voir si les Américains s'en venaient. Alors, on a l'impression qu'ils ont besoin d'alliés, si on peut dire, et les alliés, c'est les Sulpiciens.
C'est ça que j'aimerais... Disons que, vous savez, on est peut-être un peu loin du livre,
D'accord.
si on veut,
oui.
mais reste que les Sulpiciens qui viennent à la Révolution française, disons que viennent à leur demande. Ce n'est pas les Anglais qui...
Qui leur a demandé, c'est ce qu'ils nous disent.
Oui, c'est tout à fait naturel. Monsieur Lajeunesse, vous expliquiez qu'il y avait eu une attrition très grande chez les Sulpiciens, ils étaient moins nombreux, et cet apport a été, c'était une renaissance, si je prends les termes de certains Sulpiciens, après donc la Révolution française, c'est une refondation, si on veut, du séminaire.
Quand on voit les lieux, c'est extraordinaire de voir cette peinture là, du séminaire et avec tout le paysage, la forêt, de la montagne, ainsi que tout autour. Tout leur appartenait, on a l'impression. Que Montréal, tout leur appartenait. Ils étaient les rois.
Merci bien, madame. Je ne sais pas. Avez-vous une question par rapport
au livre? Oui, j'en avais une autre. C'est qu'aujourd'hui, ils ont à peu près pas tout perdu, mais ils ont toujours vendu pour pouvoir payer leurs frais. Et aujourd'hui, ils disent qu'on a besoin de 300 000 pour payer le séminaire. Il n'y a plus que 18 séminaristes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent, ils ont tout démoli leurs arbres derrière. Et tout ça, c'est en stationnement. Ils louent des places de stationnement pour l'hôpital général. Ça les aide à vivre un peu.
Ouais. Je vous remercie de ce commentaire, mais c'est peut-être une question tout à fait privée que celle-là. Enfin. Avez-vous une autre question? Oui, Sophie.
J'en ai deux.
Deux.
Une pour... Mon Dieu, excusez.
Baisse-le.
Merci. Une pour Michel et une pour ensuite Marcel Lajeunesse et Jean-René Lassonde qui pourront probablement se relayer. Michel, la circulation du livre entre les Sulpiciens est fascinante. Est-ce qu'on peut penser, c'est peut-être simplement d'émettre une hypothèse, qu'elle est représentative, puisqu'il y a peu de livres en Nouvelle-France, d'une circulation du livre entre les citoyens qui ne sont pas membres de la communauté sulpicienne? Est-ce qu'on attend la thèse de François pour avoir les réponses à ces questions?
Bien, je pense que la thèse de François va probablement nous éclairer. Il s'agit de savoir qui avait des livres à cette époque-là. Et là, ça dépend Si on parle de, disons, fin 17e, où il y avait quand même très peu de livres, je pense. Quand on commence au début du 18e, là, je pense que ça, il y a quand même beaucoup plus d'individus qui ont des collections de livres. Et là, il y a un commerce du livre qui s'installe un peu. Mais au 17e siècle, je pense que c'est assez primitif. Et il y a peut-être seulement qu'entre les congrégations, les quelques sulpiciens, et peut-être aussi certains fonctionnaires du gouvernement, certains avocats, c'est pas dans la population là, que vous allez trouver des livres. On va en trouver peut-être vers la fin du 18e siècle, on trouve des ouvrages avec des provenances, je dirais, assez populaires. Mais avant ça, c'est vraiment l'élite hein, qui possède les livres. Mais je pense que dans la thèse, François, les oreilles vont y sonner toute la soirée, parce qu'on a parlé de lui beaucoup. François, je pense que tout le monde a bien hâte de lire sa thèse. Je pense que ça fait 500 pages, donc on va avoir du temps. Il faut avoir beaucoup de temps pour lire ça.
Merci, Michel.
Un mot pour dire que en Nouvelle-France, les livres sont surtout à Québec. Sont surtout à Québec, chez les avocats procureurs du Conseil souverain, chez les administrateurs. Les grandes bibliothèques sont là, le Séminaire de Québec qui commence, le Collège des Jésuites, etc. L'évêque de Québec qui a une bibliothèque importante. À Montréal, vous savez, en Nouvelle-France, il y a à peu près les Sulpiciens. Hein. À part les Sulpiciens, il n'y a pas grand-chose au niveau de bibliothèques importantes. Il y a des livres, évidemment, mais il y a peu de bibliothèques.
Et plus à ce moment-là, au 19e siècle et 20e siècle, dans les différentes bibliothèques sulpiciennes, depuis l'œuvre des bons livres jusqu'à la bibliothèque Saint-Sulpice, est-ce que ou comment la littérature québécoise qui émerge tranquillement au 19e siècle, est-ce qu'elle va trouver sa place dans le catalogue, dans les catalogues des bibliothèques chez les Sulpiciens? Si oui, comment? On sait qu'elle existe, elle existe pas beaucoup, mais est-ce qu'elle va trouver sa place dans les catalogues des différentes institutions sulpiciennes?
Quand on regarde les catalogues de 1898 et 1904 de M. Hébert, là, on voit que les bibliothèques sulpiciennes sont préoccupées du livre canadien. Auparavant, évidemment, peu ou pas. On n'en retrouve pas dans les catalogues de 1845. Il faut dire qu'il y en avait peu aussi. Puis de 1862. Même si en 1862, il y avait ce nombre de publications. Et la revue du cabinet, l'écho du cabinet de lecture paroissiale, était une revue qui se voulait une revue littéraire, qui rendait compte des conférences et des débats qu'il y avait au cabinet de lecture. Mais contrairement à la revue canadienne, qui a commencé en 1864, elle traitait peu des choses d'ici, des choses canadiennes. Et à partir de 1867 à 1875, cette revue ne traitait que de littérature et de française, de France.
Oui, à partir de 21, on reçoit assez bien ce qui se fait au Québec. En littérature et en général. D'ailleurs, on a encore la correspondance de Fauteux pour les auteurs là, qui étaient adressés aux auteurs, leur demandaient de déposer leurs livres. Par ailleurs, à la fin de sa vie, là, je pense la dernière année où il a vécu, Gaston Miron avait fait un relevé pour la poésie de ce qu'on avait, nous. Et on avait 98% des livres en poésie publiés au Québec. En tout cas, 95%, mettons. C'est assez considérable. Alors, je pense que c'est assez bien réussi.
Vous ne devez pas avoir 100%. Une autre question?
Vous ne devez pas avoir 100%.
Oui.
On devrait essayer.
Plutôt une remarque. S'agissant de la Bibliothèque nationale, il y a un sommet de la culture, Montréal, Québec, et puis d'autres gens, là, en novembre. Et là, il y a un projet qui va être déposé de gens qui veulent obtenir, s'approprier la bibliothèque pour en faire une espèce de secrétariat pour un grand nombre d'associations. Ça chemine et les gens du livre, il faudrait qu'ils le sachent. Moi, je suis intervenu contre ce projet-là, mais le regroupement des organismes du patrimoine, eux, ils semblaient trouver que c'était bon. Puis ils poussent ça.
Donc, une sorte de maison du patrimoine ou, comment dire, du patrimoine vivant, je crois.
Oui. Alors, sachez que ça...
Merci.
Oui.
Eh bien, pour ma part, j'aurais peut-être une question à M. Brisebois. Le transport des livres s'effectuait comment sous le régime français?
Ben là, je dois avouer que je ne suis pas un expert en transport maritime. Et j'ai essayé, quand on travaillait sur l'exposition et puis sur l'inventaire, essayer d'avoir des renseignements sur comment on transportait les marchandises et comment on transportait surtout les livres. Disons au 17e siècle et au 18e siècle. C'est pas facile parce qu'on parle beaucoup des navires de guerre, certains navires marchands, etc. Et ça varie énormément au niveau de la capacité de ces volumes-là, de ces navires-là. Mais moi, ce qui me renverse, c'est quand on voit des gens construire une bibliothèque de plusieurs milliers de livres, rendus même au milieu du 18e siècle. Il doit y avoir eu 2-3 000 livres dans la bibliothèque des Sulpiciens. Et tout ça a été amené par des coques de noix pendant 100 ans. Quand vous voyez les in-folios des œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin en 8 volumes, on se demande comment ils ont fait pour amener ça jusqu'ici. Parce que les navires, d'abord, n'étaient pas tellement gros. Ils n'avaient pas... les livres, ce n'était pas des choses qu'on emballait avec du papier bulle. C'était des choses qu'on mettait dans des valises ou dans des tonneaux, comme on faisait en Europe. On se demande comment ils ont fait pour arriver ici arriver, d'abord, parce qu'il y avait beaucoup de naufrages, en plus. Et dans les cales des navires, des voiliers, ben, il y avait constamment de l'eau qui se promenait. C'est difficile à imaginer comment est-ce qu'ils ont pu, ces livres-là ont pu survivre. Premièrement, le transport. Ensuite, sans parler de tout ce qui se passait ici dans ces 150 années. Moi, quand je vraiment, c'est peut-être un peu, vous pouvez peut-être un peu le trouver romantique, mais quand je vois ces 600 ou 700 livres qu'on a identifiés comme étant certainement des livres qui sont arrivés ici avant 1750, qu'on a à BANQ, je ne sais pas, ça me fait tout drôle parce que ce sont des objets. On parle beaucoup des lieux de mémoire, mais moi, je parlerai des objets de mémoire aussi. Ces livres-là qui ont passé quand même à travers beaucoup. Et puis, c'est pour ça que ça serait très, très bien si on pouvait leur donner une sorte de statut particulier à ces premiers livres-là qui sont arrivés ici. Mais là, je déborde complètement la question de mon collègue.
Les oui. achats de photos sont arrivés dans des grandes caisses où il y avait des centaines d'ouvrages et l'emballage était goudronné par la suite.
Ah oui?
Oui. Et c'était quand même toute une technique aussi pour déballer tout ça. Pour la Nouvelle-France, il faudra encore une fois attendre François Mélenchon.
D'accord?
Oui.
Il y a un métier beaucoup sur le dos.
On va en faire une pièce de théâtre en attendant François.
Oui, M. Fournier?
Oui, Claude Fournier, directeur général de la conservation à BANQ. Je voudrais mentionner que effectivement, on parlait de statut particulier pour les livres. Je voudrais mentionner que la collection Saint-Sulpice, qui est à BANQ, la collection mère, en fait, cette collection-là qu'on a protégée, qu'on a défendue, qu'on a traitée, qu'on a réparée. On travaille à lui donner un statut particulier, c'est-à-dire à la faire classer au chapitre des biens culturels. Ces démarches-là sont relativement avancées et on s'attend à des résultats très, très bientôt. Et je pense que ce serait symboliquement une grande victoire, effectivement, pour cette collection-là qui le mérite hautement. Voilà.
Oui,
pour répondre personnellement à l'interrogation sur le transport de, pour transporter des biens fragiles en navire. Évidemment, il y a le coffre personnel des passagers, dépendamment de la quantité de livres. Sinon, pour les objets fragiles, classiquement, c'est gros qui peut avoir les barriques ou des caisses qui sont faites par des gens qu'on appelle les yachtiers. Imaginez une caisse de vin géante. Ce qui est plus inquiétant pour le livre, c'est que c'est la matière intercalaire, je peux dire, on n'a pas de bubble pack et de choses comme ça, de papier bulle, d'étafoam ou de choses comme ça. Donc, c'est du brin de scie ou de la paille, ce qui doit tirer toutes sortes d'amateurs de livres, mais à 6 pattes.
D'accord.
Ça rajoute au petit miracle.
D'accord. Donc, merci, M. Ledoyen, responsable du lieu historique canadien, la maison Georges-Étienne Gartier. Bon. Voilà. Eh bien, je crois que ça conclut bien cette... Oui, bien sûr.
Non, pas tellement. Je sais pas, il y en a beaucoup des trésors. Je reviens un petit peu à l'exposition parce que ce sont des livres avec lesquels on a travaillé beaucoup. Et celui, moi, qui m'a fait vibrer peut-être le plus, c'est un petit livre d'un catéchisme des confesseurs qui a appartenu à Michel Barthélémy, qui était un des premiers à venir ici. Et c'est le seul dans cette collection-là, à peu près, que j'ai vu, le seul sulpicien qui annotait ses livres. Et non seulement qui les annotait, mais qui écrivait partout sur les pages de garde. Alors, si vous le voyez, il est encore, j'espère, dans l'exposition. C'est un tout petit bouquin comme ça. Et comme Barthélémy était un missionnaire, travaillait beaucoup comme missionnaire, dans mon romantisme que je vous ai avoué tout à l'heure, je le vois aussi beaucoup se promener avec ce tout petit bouquin dans ses poches en se promenant là, en canot un peu partout. Et le soir, avec sa plume, écrire les notes sur l'expérience, son expérience comme confesseur avec les tribus autochtones. Et c'est écrit moitié en français, moitié en latin. Et c'est tout petit, tout petit, tout petit. Alors ça, pour moi, ça donne toute l'atmosphère de cette époque-là. Pour moi, c'est ça, la Nouvelle-France. Peut-être parce que peut-être que j'ai appris l'histoire quand on nous parlait des robes noires, etc. Là. Mais pour moi, c'est l'image du livre en Nouvelle-France. Pour moi, c'est ça. Oui. Monétaire. là, je pourrais vous dire, au niveau de l'exposition, en tout cas, il y a un petit bouquin avec une très belle reliure du 16e siècle, fin 16e siècle, une reliure à la fanfare, et c'est un livre qui lui-même n'a à peu près pas de valeur, mais c'est la reliure qui est très belle, c'est une reliure de l'époque d'Henri III, et c'est un livre qui a appartenu à Pierre Boucher, avec sa signature sur le titre. Moi, en tout cas, c'est le premier livre que je vois, que je connais, qui appartenait à Boucher. Je n'ai jamais vu de mention nulle part de Pierre Boucher qui avait une bibliothèque qui contenait X livres. Et ça, on l'a découvert un petit peu par hasard.
Eh bien. Donc, si vous voulez le voir, je vous rappelle que l'exposition se tient jusqu'au 21 octobre. Et il me reste à vous remercier d'être venu pour écouter ces belles références.